Bonsoir. La quasi-totalité des entreprises publiques de la RDC sont actuellement contre-performantes et leur situation reste très préoccupante. Propos du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa à l'ouverture lundi 9 décembre à Kinshasa des travaux des états généraux du portefeuille de l'État. Selon ce dernier, plusieurs défis doivent être relevés afin de parvenir à une gestion irréprochable de ces entreprises. Jean-Lucien Boussa affirme que la crise profonde qui ruine actuellement les entreprises du portefeuille se manifeste notamment par la mauvaise gestion, les rivalités internes et le manque de rigueur. Ces états généraux du portefeuille de l'État se tiennent sous le thème « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et du développement social de la RDC ». Que pensez-vous de l'organisation des états généraux du portefeuille? Qu'est-ce qu'il faut pour favoriser la relance effective des entreprises publiques de la RDC? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 10 décembre 2024. Participe au débat professeur Henri Limbaka Bofolo, directeur de cabinet adjoint au ministère du portefeuille. Professeur Henri, bonsoir.
Bonsoir madame.
Aussi avec nous dans cette émission, professeur Gary Sakata, député national, élu des Bagata dans la province du Kwilu. Il est cadre du parti politique Palou, membre de l'Union sacrée de la nation. Professeur Gary Sakata, bonsoir.
Bonsoir.
Et Lems Kamonya, qui est expert en économie et finance. Lems Kamonya, bonsoir.
Bonsoir, Kélie.
Vous êtes déjà très très nombreux, chers auditrices, auditeurs de Radio Okapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de David Mutayubara depuis Kinshasa. Les états généraux du portefeuille de l'État sont une initiative opportune pour diagnostiquer les dysfonctionnements des entreprises publiques et amorcer des réformes structurelles. Ils offrent une plateforme d'échange pour aligner les objectifs des performances avec les exigences de transparence et de bonne gouvernance. Emery Zazou, quant à lui, pense que dans ce pays actuellement, il y a une mauvaise gouvernance qui caractérise tous les secteurs de la vie des Congolais. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 94.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre ces débats en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Ouverture lundi 9 décembre à Kinshasa des travaux des états généraux du portefeuille de l'État. La quasi-totalité des entreprises publiques de la RDC sont actuellement contre-performantes et leur situation reste très préoccupante, alerte le ministre du portefeuille. Il a dit lors de l'ouverture des travaux des états généraux du portefeuille. Plusieurs défis doivent être relevés afin de parvenir à une gestion irréprochable. Emmanuel Elamegi, présent au lancement des travaux, nous en dit plus.
À l'initiative du gouvernement central, ces travaux vont passer en revue tous les maux qui rongent les secteurs du portefeuille de l'État. Les participants, qui viendraient de tous les horizons, vont poser les vrais diagnostics en examinant les maux dont souffrent les entreprises publiques, dont la plupart sont devenues des canards boités. Dans une dépêche parvenue à Radio Okapi, le ministre du portefeuille de l'État, Jean-Lucien Boussa Tongba, a affirmé avoir prévu 6 panels à travers lesquels des éminents professeurs, des experts nationaux, dont les mandataires et des acteurs de la société civile, vont apporter leurs contributions sur les différentes thématiques retenues. Parmi ces panels, il y a entre autres les cadres juridiques, institutionnel du portefeuille de l'État et la réforme des entreprises publiques, la gouvernance et l'amélioration de la performance des entreprises du portefeuille de l'État. Au sortir de ces états généraux, le ministre Boussa voudrait rendre les entreprises du portefeuille de l'État plus performantes et accroître efficacement leur contribution au budget de l'État.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Blaise Dongala et non Emmanuel Elamegi. Professeur Henri Limbaka Bofolo, directeur de cabinet adjoint au ministère du portefeuille. Le ministre Jean-Lucien Boussa l'a dit lors de l'ouverture de ses travaux que la quasi-totalité des entreprises publiques de la RDC sont actuellement contre-performantes et leur situation très préoccupante. Il a même affirmé que la crise qui ruine actuellement ces entreprises se manifeste notamment par la mauvaise gestion, les rivalités internes et les manques des rigueurs. Alors il propose comme solution une gestion irréprochable, entre autres voies bien sûr, une gestion irréprochable de ces entreprises. Pourquoi avoir organisé ces états généraux de portefeuille, hein, des entreprises du portefeuille de l'État, lorsque l'on connaît déjà les causes ou ce qui ruine ces entreprises de l'État, et on connaît, on a même les remèdes. Pourquoi vous organisez ces états généraux du portefeuille?
Merci madame pour votre question. Vous savez, les états généraux des entreprises du portefeuille tombent à point nommé 25 ans après les premiers états généraux des entreprises du portefeuille. Il fallait reposer les diagnostics, le vrai diagnostic sur les maux qui rongent les entreprises du portefeuille aujourd'hui. Et nous organisons ces états généraux sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a demandé au ministre, à son Excellence Monsieur le Ministre du Portefeuille, d'organiser les états généraux. Et dès l'entrée en fonction de son Excellence Monsieur le Ministre du Portefeuille, il a dû faire un état des lieux qui a montré un certain nombre d'insuffisance au niveau des entreprises. Premièrement, le problème de gouvernance. Il a été noté que dans les entreprises, plusieurs de dirigeants et mandataires n'ont pas bien compris leur rôle, ou bien ils ont compris mais ils ne veulent pas assumer leur rôle comme il faut. Deuxième problème, c'est le problème de la gestion. Les entreprises n'ont pas, on a remarqué que les entreprises n'ont pas la culture de la gestion axée sur les résultats. Troisième problème, c'est le problème de planification. Beaucoup de nos entreprises n'ont pas de plan clair de là où ils veulent aller et de comment y aller. Et le quatrième problème, c'est le problème de contrôle. Dans les entreprises, on ne laisse pas l'indépendance des audits internes ou externes pour contrôler et certifier les états financiers normaux des entreprises. Voilà les quatre problèmes qui se posent pour l'instant, et on veut que l'ensemble, la communauté des entreprises et la communauté de parties prenantes puissent discuter sur ces questions, diagnostiquer, voir comment on peut y remédier. Voilà pourquoi les états généraux aujourd'hui.
Alors, est-ce que ces réflexions ne pouvaient pas se faire dans un cadre assez restreint que d'organiser un grand forum où plusieurs personnes ont été invitées? Est-ce qu'il ne fallait pas juste restreindre ça avec les personnes concernées?
Vous savez, la problématique d'une entreprise, c'est une problématique qui regarde toute une communauté. Si vous regardez la configuration des entreprises du portefeuille de l'État, elles se retrouvent dans beaucoup de domaines, notamment les finances, les mines, les hydrocarbures, les transports, la télécommunication, le tourisme, et j'en passe. Vous verrez que ces domaines, ce sont des domaines qui font partie de la vie de chaque jour de la communauté de la République démocratique du Congo. Et étant donné que ces entreprises touchent tous ces domaines, chacun de Congolais a quelque chose à dire sur ce qui va ou sur ce qui ne va pas au niveau des entreprises. Raison pour laquelle il fallait étendre, ouvrir le champ pour que on écoute les uns les autres sur ce qui ne va pas au niveau des entreprises et enfin d'y remédier. C'est pourquoi vous verrez qu'on a invité les institutions de l'État. On a invité les entreprises, on a invité les partenaires techniques et financiers, on a invité la société civile et ainsi de suite. Pour que chacun...
Les étudiants aussi.
Le membre du corps scientifique, les start-up, les étudiants et toute la jeunesse, parce que les questions que nous débattons aujourd'hui et les solutions que nous trouverons, nous proposerons, puissent être des solutions qui vont régler les problèmes de cet avenir-là qui est la jeunesse.
Alors, on parle trop de performance des entreprises du portefeuille. Alors, comment vous définissez, professeur Henri Limbaka, comment vous définissez la performance d'une entreprise publique dans le contexte de la RDC?
D'une manière générale, ça ne reste pas que le contexte de la RDC, mais d'une manière générale, une entreprise performante, ce n'est pas une entreprise qui a des résultats positifs seulement. C'est une entreprise qui, au-delà des très bons résultats, il répond d'abord à ses objectifs. Deuxièmement, c'est cette entreprise qui produit des externalités positives dans la communauté dans laquelle elle est implantée. Troisièmement, c'est une entreprise qui a les capacités de participer à la création des richesses d'un pays. Et c'est une entreprise qui peut contribuer au budget de l'État. Et de cette manière, on peut considérer que c'est une entreprise performante. Au-delà de ces éléments, il y a aussi l'aspect de capital humain. C'est une entreprise qui a la possibilité d'embaucher du capital humain aujourd'hui et définir une certaine pour dire comment est-ce que ce capital humain va progresser dans l'entreprise dès l'entrée à la sortie sans poser des problèmes, sans qu'il y ait des difficultés et que ce capital humain soit motivé à travailler et donne le meilleur de lui-même en vue d'une productivité élevée pour permettre à l'entreprise d'assurer la réussite de ses objectifs, l'atteinte de ses objectifs et arriver au résultat escompté.
Et c'est pas le cas avec les entreprises publiques aujourd'hui, c'est pas le cas avec nos entreprises.
Je n'ai pas dit que c'est toutes les entreprises, certaines entreprises bien entendu. Aujourd'hui, le portefeuille de l'État compte une centaine d'entreprises du portefeuille, okay, dont une trentaine d'entreprises publiques. Et donc, lorsque on dit que nous sommes autour d'une centaine, il y a quelques entreprises qui présentent des performances. Et c'est comme dans le corps humain, il se pourrait que une partie du corps humain soit malade, mais ça ne veut pas dire que tout le corps est malade, mais ça influence tous les corps. Donc, il y a des entreprises qui sont performantes, mais lorsque nous regardons, nous agrégeons leur contribution au niveau du budget de l'État, nous voyons que le pourcentage est très faible. Ça veut dire que cette mise en commun inhibe tout de suite la force de ceux qui sont performantes.
Professeur Henri, professeur Gary Sakata, je rappelle que vous êtes député national, élu de Baguette dans la province du Kwilu. Professeur, comment ou quel est votre diagnostic de la situation actuelle des entreprises publiques en RDC? On a suivi le ministre Jean-Lucien Boussa dire que la situation reste ou la situation est très préoccupante par rapport aux entreprises du portefeuille. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Je voudrais d'abord faire noter que avant la transformation égale après la transformation, je parle bien de la transformation des entreprises publiques en société commerciale et en établissement public. Donc je considère qu'avant la transformation a été ou se révèle aujourd'hui être un véritable échec parce que il n'y a pas eu vraiment d'évolution. L'on peut même penser à une forme de régression
dans le sens du développement de du développement espéré de ces entreprises publiques. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'entends dire aussi le gouvernement, c'est que je sens que la plupart du temps les mots qui sont évoqués revêtent un caractère plus ou moins subjectif, c'est-à-dire en mettant uniquement le poids de tous dans le chef des gestionnaires et enfin principalement des gestionnaires. Mais je crois qu'il faudrait cumuler cet argument plus ou moins subjectif, donc lié aux personnes, avec des arguments que je peux considérer comme étant objectifs et qui relèvent ou qui est à charge de l'État ou qui fut à charge de l'État, notamment la vétusté de l'outil de travail. Donc, si parfois ces entreprises ne sont pas performantes, c'est parce que l'outil de travail qui leur a été confié n'a pas n'est pas adapté ou le plus adapté au regard du temps depuis lequel ces entreprises ont été créées. Les outils de travail mis en place sont devenus tellement vétustes que l'on ne peut pas espérer avoir une progression. Ça, c'est d'une part. D'autre part, également, le pléthore de personnel. Vous savez que chaque mandataire qui vient amène son lot d'amis, de famille ou de frères et tout ça. Et la plupart peuvent se révéler parfois incompétents, mais pas dans tout le cas, bien entendu. Je note également que l'idée de la transformation des anciennes entreprises publiques en sociétés commerciales, notamment du portefeuille, c'était en vue de faire face à la concurrence. Mais manifestement, le diagnostic sur ce point n'a pas été vraiment bien vu, parce qu'avec l'outil qu'ils ont, comment peuvent-ils faire face à la concurrence? C'est là le plus grand danger, parce que face aux sociétés privées qui ont un personnel très qualifié, qui ont des outils très performants, je crois que nos entreprises publiques, au-delà du fait que l'on parle de la mauvaise gestion ou du manque de rigueur ou de la rivalité interne, je pense que les entreprises publiques, si on y prend garde, du portefeuille, sont vouées à disparaître dans la mesure où, ou du moins celles qui font concurrence à d'autres. Il faut vraiment pas espérer, de mon point de vue. Alors, pour apprécier ce que le gouvernement fait, un diagnostic est toujours important et nous allons en attendre véritablement les résultats pour savoir là où nous pouvons aller effectivement.
Alors, Gary Sakata, il était opportun ou il était temps d'organiser ces états généraux des entreprises du portefeuille de l'État.
Et oui, il était temps de les faire, mais pas forcément dans le format un peu trop mastodonte que je vois là. Mais il était quand même temps de faire ces diagnostics. Mais avec déjà, l'on peut se plaindre du fait que le fonds de l'État ou ce genre de choses ou des entreprises publiques sont dilapidées. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que ces entreprises ont certainement contribué à quelque chose dans l'organisation actuelle. Cela contribue également à une gouvernance assez marginale de ces entreprises publiques. Pour moi, un format plus réduit aurait dû être un peu plus favorable à la bonne gouvernance.
Lems Kamwanya, expert en économie et finances, quelle est votre lecture par rapport à l'organisation de ces états généraux du portefeuille de l'État? Le ministre estime que actuellement les entreprises publiques de la RDC sont actuellement contre-performantes et leur situation reste très préoccupante. Le professeur Gary Sakata estime que avant la transformation égale après la transformation. Il fait allusion sûrement à la réforme des entreprises publiques de l'État. Je rappelle en passant, Lems Kamwanya, que vous avez été chargé de projet au COPIREP, comité de pilotage de la réforme des entreprises publiques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de ces états généraux du portefeuille?
Oui, merci Gary pour la question et je salue les deux professeurs avec qui nous participons ensemble à cette émission. Pour répondre directement à votre question, je dirais que organiser les états généraux, c'est un moment d'arrêt, c'est un moment de réflexion dans la vie de ces entreprises et c'est quelque chose qu'on peut saluer parce qu'à un moment donné, quand on fonctionne, il faut s'arrêter, évaluer regarder on vient d'où, quels sont les problèmes qu'on rencontre et quelles solutions on peut apporter pour l'avenir. Vu sous cet angle, je salue l'organisation des États généraux et on espère qu'on va en sortir avec des recommandations qui prennent en compte les réalités actuelles et des recommandations pertinentes pour l'avenir de ces entreprises. Alors, vous évoquez, j'ai suivi les directeurs de cabinet du ministre du portefeuille qui a dit que ça fait 25 ans depuis qu'on avait organisé les États généraux sur les portefeuilles de l'État. Mais il a quand même oublié de mentionner qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en dehors de 25 ans. Vous l'avez souligné, c'est notamment la réforme des entreprises publiques. Et je pense que peut-être cette réforme n'avait pas été comprise. Et les gens n'ont pas compris que cette réforme avait plusieurs étapes. Et même l'honorable Sakata qui est intervenu, il dit avant la transformation égale après la transformation. Mais la transformation, elle avait quel objectif? Ce n'était pas la transformation qui devrait amener à la performance des entreprises publiques. Pour rappel, tout ce qu'on appelait entreprise publique était régi par la loi 02 de 1978, qui mélangeait et les services publics, et les établissements publics, et les sociétés commerciales. On les mettait tous sous la même enseigne, à telle enseigne que on ne savait pas regarder quelles sont ces entreprises qui sont là pour assurer les missions de services publics. Et quelles sont les entreprises qui ont un objet social à caractère économique et celles qui ont un objet social à caractère financier. C'est ainsi que la première des choses, c'était de procéder à ce qu'on avait appelé les reclassements des entreprises à travers la loi sur la transformation des entreprises publiques pour que qu'on confère à chaque entreprise sa véritable nature juridique. Et ça, c'était une première partie de la réforme, la partie juridique, où on devrait regarder chaque entreprise par rapport à son objet social. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise commerciale? On lui confère un statut qui correspond à sa nature juridique. Est-ce qu'il s'agit d'un établissement public, donc toutes ces entreprises qui assuraient les missions de service public et qui étaient considérées comme la continuité des ministères ou du gouvernement, on devrait les restaurer dans les ministères où ils étaient faits. Et ça, c'était le processus de transformation et de reclassement des entreprises publiques qui rentrait dans le cadre, qui faisait partie de la réforme du cadre juridique institutionnel qui régissait les entreprises, tout ce qu'on appelait en son temps comme entreprise publique. C'est ainsi que, de cette transformation, et qui donne ses preuves aujourd'hui, on a pu avoir des établissements publics comme l'OCC, comme l'OGFREM, comme les cadastres miniers, qui sont insérés parce que ce sont des entreprises qui assurent les missions de services publics et qui relèvent de leur ministère de tutelle. Et ensuite, toutes ces entreprises-là qui faisaient une activité marchande, on les a considérées comme des entreprises commerciales et qui aujourd'hui sont sous la responsabilité du ministère du portefeuille. Donc ça, à ce niveau, on ne peut pas dire qu'il y a eu échec parce que cette transformation-là visait à restaurer la nature juridique de chaque entreprise et c'était ça un objectif qui a été atteint. On ne peut pas dire que ça n'a pas été résolu. Maintenant, revenons au cœur de la problématique actuelle. Nous avons les entreprises qu'on a considérées comme entreprises commerciales, celles-là qui ont un objet social à caractère marchand. Pourquoi ces entreprises ne sont pas performantes? Les causes de la performance font l'objet d'analyses et c'est là que j'aimerais que ces états généraux puissent se focaliser sur les causes des performances de ces entreprises.
Justement, c'est la question que je voulais vous poser. Hein, les principales causes des problèmes de performance de ces entreprises publiques en RDC, est-ce qu'il s'agit des problèmes de gouvernance, de management, de contexte économique de la RDC ou d'un mélange de tous ces facteurs, l'EMS Camonien?
Bien sûr, il y a toute une série de facteurs qui peuvent s'appliquer différemment sur les entreprises. On a évoqué les problèmes de gouvernance qui est toujours associé à la politisation de ces entreprises. La plupart des mandataires ont des couvertures politiques, ce qui fait que tous les problèmes que le DIRCAB a évoqués ici, les contrôles qui ne sont pas efficaces ou qui ne sont pas effectués, les états financiers ne sont pas certifiés, les audits parfois externes qui sont empêchés, et il y a la mauvaise gouvernance, les surfacturations, les marchés qui ne sont pas là. Ça, c'est un grand problème et on constate que cette performance est due à cela et la plupart des mandataires publics ont été accusés de mauvaise gestion, mais malheureusement, il y a toujours une couverture politique qui est derrière. dans cette gouvernance-là, on peut aussi évoquer la responsabilité de l'État. Parce que quand on avait réformé ces entreprises en disant qu'elles deviennent commerciales, on voulait qu'elles fonctionnent, qu'elles soient régies par les droits communs, qu'elles fonctionnent comme n'importe quelle autre entreprise avec une certaine liberté au niveau de ses dirigeants. C'est pourquoi vous verrez même que les conseils d'administration de ces entreprises sont comparables à celles qu'on trouve du côté des entreprises privées. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'interférences dans les fonctions de ces entreprises et ces pesanteurs politiques parfois affaiblissent un mandataire qui est là. Il ne songe pas à rendre l'entreprise performante. Ils songent d'abord à avoir des sécurités par des parapluies, ces gens-là qui peuvent intervenir pour éviter qu'on puisse les déboulonner. Ça, c'est une réalité que nous vivons. Mais la grande réalité aussi, aujourd'hui, en parlant de la performance, j'aimerais, même si nous parlons des entreprises du portefeuille qui ont un caractère marchand, qui sont considérées comme commerciales, je préfère qu'on les regroupe en deux catégories. Il y a celles qui ont ce qu'on appelle des objectifs financiers ou budgétaires. C'est des entreprises qui ont été créées avec l'objectif de contribuer au budget de l'État. C'est par exemple la Gécamines, c'est par exemple la Mibar. Ces entreprises-là, quand on regarde leur activité marchande, c'est générer l'argent et renforcer les budgets de l'État. Donc si vous voulez évaluer leur performance, il faut mesurer quel est le niveau de leur contribution au trésor public, au budget de l'État. Mmh. Si la contribution est faible, à ce moment-là, ça soulève un problème sur la performance de telles entreprises. Deuxièmement, il y a des entreprises qui ont pour objectif de développer l'économie. C'est le cas de la SNCC, qu'on a toujours considéré comme le pivot dorsal de l'économie congolaise. C'est le cas de l'ONATRA. Ces entreprises sont là pour que dans leur fonctionnement, qu'elles assurent un meilleur fonctionnement de l'économie, notamment en assurant les déplacements des personnes et des biens, en facilitant les mouvements du fret sur les terrains du territoire. Ce sont ces infrastructures et de leur activité et ces entreprises sont considérées comme des vecteurs de l'économie et des vecteurs de la croissance. Donc, si vous voulez évaluer leur performance, ce n'est pas de regarder combien la SNCC a contribué au budget de l'État, combien l'ONATRA a contribué au niveau du budget de l'État, mais c'est plutôt évaluer quelles sont les facilités, quelles sont les exemples positifs qu'elles ont créés dans notre cadre macroéconomique pour permettre la croissance et le développement du secteur. Si nous faisons une telle analyse, à ce moment-là, la performance des entreprises ou leur contre-performance sera bien entendu en regardant quel est l'objet social pour lequel ces sociétés-là ont été créées. Je pense qu'aujourd'hui, au sein du portefeuille de l'État, il faut qu'on arrive à faire ces distinguos en mettant d'un côté les entreprises qui ont été créées avec des objectifs financiers et budgétaires pour regarder c'est quoi leur contribution. Si elle est faible, donc là, il y a des problèmes. Et d'autre part, regarder ces entreprises qui sont censées développer l'économie en regardant quels sont les effets positifs que ces entreprises ont créés tout au long, donc au sein de notre cadre macroéconomique et que ces entreprises ne freinent pas la croissance économique, ça ne freine pas le développement économique. C'est là qu'on doit juger leur performance et non pas leur contribution au budget de l'État.
Merci.
Mais là-dessus, je dois souligner.
On va vous redonner la parole, Lems Kemonia. Le temps juste d'ouvrir notre standard pour permettre aux auditeurs aussi de poser leurs questions aux invités qui sont avec moi dans cette émission. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui appelle.
Docteur Maurice Mignon Kabufu, je vous appelle depuis la ville-province de Kinshasa. À mon humble avis, j'ai comme l'impression que l'organisation des États généraux est devenue un slogan ou encore une mode de gestion pour le régime Tshisekedi. Et je reste très pessimiste quant aux résultats que pourra apporter ces États généraux. Alors que le vrai problème qui ronge tous les secteurs de la vie dans ce pays sont bel et bien connus et il appartient à ces fameux gouvernements de se mettre au travail en lieu et place de gaspiller encore l'argent de l'État en organisant des États généraux qui, pour moi, ne pourront rien ajouter.
Professeur Henri Limbaka, vous avez suivi le point de vue de cet auditeur par rapport à l'organisation de ces travaux.
Merci beaucoup.
Mais vous pouvez réagir aussi à l'analyse du prof Sakata et de Lems Kemonia.
Oui, oui. En fait, je commence par Dr. Maurice Nyoka, je crois. Sa voix me semble jeune et je suis très satisfait et content que ça soit une génération jeune qui intervient et pose la question sur la problématique des États généraux. Il faudra que je commence par le rassurer que lorsque on organise les états généraux, c'est pour réellement traiter des questions qui vont définir des bases solides pour le futur. Et le futur, c'est appartient à ceux qui sont des jeunes aujourd'hui. Aussi satisfait des interventions de mes collègues qui ont plus ou moins abondé dans le même sens que moi, tout en expliquant plus ou moins les réformes qui ont eu lieu depuis 2008, et je suis très satisfait de leurs interventions. Mais je voulais par ailleurs rappeler que l'État, en ce qui concerne l'État, le rôle de l'État dans les entreprises, l'État joue un rôle bicéphale. Vous verrez que il y a d'un côté l'État actionnaire qui est patron de l'entreprise, et de l'autre côté il y a l'État qui est pouvoir. Et c'est cet État-là qui, normalement, c'est l'État pouvoir qui met en place des lois, des règles, des moyens pour que l'entreprise publique ou les entreprises publiques puissent évoluer et donner les meilleurs résultats d'elles-mêmes. Et l'État actionnaire, c'est celle-là qui est dans l'action de l'entreprise, qui a les participations dans l'entreprise. Ça peut être 100%, ça peut être quel que soit le pourcentage, mais c'est cet État-là que on relève. Et aussi la question de la cause des performances. Mm-hmm. Vous savez, j'ai dit qu'il y avait un problème de gouvernance, un problème de management, un problème de planification, un problème de contrôle. C'est intéressant de les comprendre dans ce sens-là pour les prendre comme un tout, car ces problèmes, ce sont des problèmes qu'on ne doit pas les regarder de manière séparée. Et aussi, quand nous parlons de la gouvernance, on n'écarte pas l'État dans son rôle bicéphale, parce que l'État, c'est celui qui, aujourd'hui, nomme, met en place des dirigeants des entreprises. Et c'est pourquoi vous verrez que parmi les réformes qui ont été faites au niveau du portefeuille dès l'entrée de jeu, il y avait cette question d'analyser le profil des mandataires de l'État. Parce que c'est vrai, l'État nomme, mais est-ce qu'il y a eu résolution de cette question du profil? Maintenant que la question est résolue, je pense que vous verrez, après les états généraux, comment est-ce que les différents mandataires vont se présenter, vont se comporter, et qui pourra être, c'est-à-dire le choix des mandataires sera bien défini, bien assuré, et non seulement le choix, mais les placer là où il faut. Ça aussi, c'est un problème qu'on doit résoudre et qu'on est en train de voir comment résoudre cette question. Et vous verrez que lorsque on a fait le diagnostic, en fait, les états des lieux des entreprises, on a remarqué qu'il y a manque de politique d'entreprise. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place une politique d'entreprise qui va permettre à toutes les entreprises du portefeuille de pouvoir savoir plus ou moins là où elles sont en train d'aller. Donc, de manière ramassée, je crois que j'ai essayé de réagir sur les questions, et notamment la question liée aux entreprises qui ont le rôle de pouvoir apporter des externalités positives à l'État. Donc, ces entreprises, lorsqu'il y a eu reclassement, c'est vrai, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont devenues des établissements publics parce que c'était des entreprises qui n'avaient aucun rôle marchand. Et c'est pourquoi ils restent établissements publics pour continuer à servir l'État en tant que pouvoir et en tant qu'actionnaire. Et il y a eu des entreprises qui ont eu le rôle marchand parce qu'ils devaient être transformés en sociétés anonymes. Et ces entreprises, étant transformées en sociétés anonymes, doivent maintenant se comporter, selon la loi OADA, se comporter comme des sociétés qui doivent être en concurrence avec les autres. Bon, ce sont les sociétés de l'État. et l'État à la mainmise. C'est clair que dans cette optique-là, il faudra qu'on arrive à laisser à cette entreprise-là la possibilité ou l'indépendance de fonctionner en concurrence avec les autres. Je prends l'exemple de la SNEL. La SNEL, c'est une entreprise publique. Mais cette entreprise publique est aussi d'utilité publique. Mais lorsque la SNEL vend du courant aux entreprises de l'État et que les entreprises de l'État ne lui payent pas son courant, qu'est-ce que la SNEL va faire? Doit-elle couper le courant aux entreprises de l'État ou enregistrer dans sa comptabilité la créance sur ces entreprises-là? Donc ça pose maintenant un problème. Il s'est fait que à un moment donné, la SNEL, ayant la toute bonne volonté de se gérer normalement, mais il s'est fait, il est buté sur une question que entre deux enfants de même maison, l'un a la dette de l'autre, mais comment ça se traite? Donc ça, c'est une question aussi qu'on est en train de vouloir régler à travers ces états généraux.
Alors on va prendre ces deuxièmes auditeurs qui nous appellent depuis la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba.
Jean-Louis Luengo Kitengia, depuis le Lualaba. L'une des causes des malheurs de notre pays, comme dans les entreprises publiques, est la politisation de tout et dans tout. Lorsque les politiciens congolais comprendront qu'ils sont à la base du malheur des Congolais, là sera le début de la guérison des institutions dans notre pays, car ils remplissent toutes les institutions des membres de leur parti politique, compétents ou non, ne tenant pas compte de qui peut faire quoi et à quel poste. C'est là afin de soulager leur conscience et de payer leur dette morale envers ces membres-là.
Alors, on va ajouter quelques réactions des internautes. Orniker Banza, qui nous suit depuis Likasi dans le Haut-Katanga. Les entreprises publiques en RDC sont butées à la principale difficulté qui est celle de politiciens, c'est-à-dire la classe politique dirigeante, qui considère ces entreprises comme une vache laitière des institutions politiques, des partis politiques ou des politiciens, d'où il faut que la politique laisse place à la vraie administration pour mieux faire. Eva Chaka, les entreprises publiques aujourd'hui, c'est une charge pour l'État au lieu d'être une contribution financière pour l'État. Valérien Kisembe à Kinshasa pense que la meilleure des choses, c'est dépolitiser les entreprises publiques pour assurer leur développement. Professeur Gary Sakata, comment vous réagissez au propos des Congolais qui réagissent via Facebook et même via notre standard?
Ben merci. Avant de répondre à ce que les internautes disent, je voudrais d'abord apprécier les interventions du DIRCAP ainsi que de l'EMS. Et tout à l'heure, d'abord, dire à l'EMS que oui, moi, je suis totalement d'accord avec vous. Bien entendu, je suis député. C'est pas la transformation des papiers, la transformation juridique qui intéresse véritablement le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est ce qu'il voit, c'est ce qui est visible, quoi. Celle de papiers, bon, on la connaît. On a mis tel papier, tel est devenu société commerciale, tel autre nom, établissement public, service public. Ça, c'est sur le papier, mais le peuple moyen ne sait même pas tout ça. Le peuple moyen veut savoir quelle est la différence entre la SNEL, entreprise publique du 6 janvier 1978, avec la SNEL, société commerciale sous l'OADA. Et la Régie des eaux, la même chose. Est-ce que la situation de l'eau, de la distribution en termes d'eau, a changé depuis que la Régie des eaux est devenue société commerciale? C'est amélioré, bien entendu. Est-ce depuis que la Régie des eaux est devenue société commerciale par rapport à ce qu'elle était en tant qu'entreprise publique? C'est sur cet aspect que j'intervenais sans méconnaître le fait que toutes les transformations à caractère juridique ont bel et bien eu lieu. Alors, pour revenir à la question ou aux questions
des internautes. En fait, les internautes estiment que c'est la
politisation, voilà. Tout à fait.
Allez-y.
Alors, lorsqu'il s'agit de la question de la politisation, il faudrait bien dire que cette responsabilité est certainement partagée. On ne va pas certainement la mettre sous le dos de politiciens. Et elle est partagée entre les politiques et les autres membres faisant partie de la société, parce que certains agents eux-mêmes sont artisans de la destruction de l'outil de travail sur lequel ils sont. Ce qu'il faut plutôt, ce n'est pas tellement de critiquer l'aspect politique, mais c'est de proposer qu'est-ce que l'on doit faire si l'on estime qu'il y a tel dégâts qui se passent au sein des sociétés commerciales du portefeuille. Et là, en ce qui me concerne, en tant que politique également, mais qui ne participe pas tellement à la politisation des entreprises du portefeuille, je veux dire que nous devons, et à tout niveau, renforcer le contrôle et être en mesure de sanctionner. Donc, dire que c'est seulement la politisation en soi n'est pas tellement un vice, hein, parce que vous pouvez vous rassurer que dans la plupart des pays du monde, y compris en Occident, les gens qui occupent des postes importants au sein des entreprises publiques ont toujours une obédience ou une orientation politique. Ce n'est jamais l'effet des hasards, c'est toujours des gens qui sont d'orientation à caractère politique. Mais par la suite, qu'est-ce
alors,
qu'on
c'est
en fait
pas un vice selon vous, professeur Gary.
Est-ce que je peux terminer? Quel est le contrôle qu'on en fait?
Alors, vous estimez que c'est pas un vice, mais il faudra mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas parce que on appartient à telle obédience ou la même obédience que le ministre ou le premier ministre qu'on doit mettre n'importe qui.
Mais déjà, les règles actuelles imposent un certain profil. Et parfois, on est passé par le concours. Est-ce que ceux qui ont réussi par le concours, à certains égards, ont-ils été mieux que ceux qui n'ont pas été? Pas forcément. Je ne dis pas en aucune manière, je ne vois pas, par exemple, que c'est le président de la République qui nomme, ou le membre du gouvernement qui nomme. Je ne crois pas que ce soit souvent n'importe qui. La question est au-delà de cela. C'est ce que je voulais dire. Donc, souvent, c'est plutôt une question du niveau de contrôle que l'on fait de ceux qu'on a désignés et du niveau des sanctions qu'on doit infliger à ceux-ci qui se posent le problème. C'est pas forcément au niveau de la politisation. En tout cas, ça, c'est mon point de vue.
On va prendre ce dernier auditeur qui nous appelle de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Radio Kapi, Georges Kilangalanga, depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. D'abord, ces états généraux sont une perte de temps et d'argent, comme d'habitude. On a déjà organisé plusieurs états généraux dans plusieurs domaines, mais aucun n'a produit des solutions visibles et durables sur terrain. Les problèmes qui rongent les entreprises publiques sont connus de tous. Ce qui est révoltant dans ça est que les politiciens qui sont à la base de la mauvaise gestion au sein des entreprises publiques sont très souvent des donneurs de leçons, se disculpant de toute responsabilité et faisant des discours trompeurs. Pour nous, la relance effectif des entreprises publiques passerait par la dépolitisation de ces dernières en mettant des personnes compétentes au lieu de privilégier les facteurs politiques qui nous ont jusqu'ici produit les résultats que nous déplorons tous.
Alors, cet auditeur nous pousse à poser la question sur la relance effective des entreprises publiques de la RDC. L'EMS Kamonia, qu'est-ce qu'il faut?
Merci Kelly pour cette question qui est la plus pertinente. En fait, aujourd'hui, nous devons relancer les entreprises parce que nous avons évoqué l'aspect de la gouvernance, c'est un des problèmes majeurs. Parce que même si l'entreprise, on lui donne tous les moyens, mais si la gouvernance est mauvaise, ces moyens seront dilapidés. Mais ce qu'il faut comprendre, nous avons un pays qui est trop grand et la réforme des entreprises publiques s'était aussi accompagnée par ce qu'on avait appelé les réformes sectorielles. Parce qu'on a compris que nos entreprises publiques ou du portefeuille, elles ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins du pays, à tous les besoins des Congolais. C'est ainsi que dans la plupart des secteurs d'activité où il n'y avait que les entreprises de l'État ou du portefeuille, on a pris des nouvelles lois qui ont libéralisé ces secteurs. Je prends la loi sur les télécommunications. C'est grâce à cette loi que nous avons tous ces opérateurs de téléphonie aujourd'hui qui sont là. Je prends les codes des hydrocarbures, je prends les codes des assurances. Donc, je crois qu'il y a eu plusieurs lois qui ont été prises par les gouvernements pour renouveler les cadres juridiques, légal et juridique, de façon à permettre des privés de rentrer dans ces secteurs d'activité où, en son temps, il n'y avait que des entreprises publiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui poursuivent les mêmes objectifs à côté des entreprises publiques, à côté des entreprises qui sont du secteur privé. Ça aussi, c'est une réforme que les gens n'ont pas vue, peut-être qu'ils n'ont pas appréciée, mais ça procède de cette volonté de voir comment on devrait avoir des entreprises qui arrivent à couvrir tous les besoins ou tous les problèmes que les Congolais ont. Maintenant, si nous revenons sur les entreprises du portefeuille de l'État ou des entreprises publiques, leur relance Outre le problème de gouvernance, il y a un problème de leur investissement, de leur capital, qui investissent. L'État n'a pas assez de moyens aujourd'hui pour investir dans ces entreprises. Quand je prends une entreprise comme la SNCC, quand est-ce qu'on va renouveler la voie ferrée de la SNCC? Quand est-ce que la SNCC aura des locomotives, des voitures, des trains et tout ça pour arriver à assurer tout ce qu'il y a? Aujourd'hui, dans la plupart des pays, on parle maintenant du chemin de fer écartement standard. Nous, on n'a même pas un kilomètre de ce chemin de fer dans notre pays. Quand je regarde, on a tracé, c'est la même chose. Donc, quand nous voyons la hauteur du budget de l'État et les besoins d'investissement dans ces entreprises, il se pose un problème aussi financier pour dire est-ce que ces entreprises ont-elles tous les moyens qui leur permettent de devenir performantes et de faire face aux entreprises privées qui fonctionnent à côté d'elles. Et c'est là que moi je vais suggérer qu'on revienne sur ces principes de ce qu'on appelle le financement innovant. Le financement innovant, c'est que soit l'État s'est dit je recours à la création des partenariats publics privés sous forme de BOT ou bien sous une autre forme qui permettent à ce que les privés viennent s'associer avec les entreprises de l'État, leur apporter les moyens qui manquent et l'État donne ce qui lui appartient et on peut aller de l'avant. Si je prends le cas de la Gécamines qui était une mastodonte au niveau du Katanga, regardez aujourd'hui combien d'entreprises minières nous avons là-bas. Si vous faites la somme de ces entreprises minières et ce que ces entreprises payent aujourd'hui comme redevance. Les succès aujourd'hui de la DGI dans la collecte des contributions, ça provient des super profits qui sont imposés, qui sont pris dans ces 12 minières. Aujourd'hui, si Colosie s'est construit, les lois là-bas s'est construit, il y a des centaines de millions qui sont là, c'est les redevances payées par ces entreprises minières. Et aujourd'hui, même si la Gécamines continue à tenir, c'est parce qu'à côté d'elle, il y a eu des partenariats avec les privés qui ont permis de développer les grands secteurs miniers de la Gécamines. Combien l'État a déjà investi dans la Gécamines? Si nous regardons sur les 30 dernières années, on ne verra même pas 100 millions, même pas 500 millions, même pas un milliard que l'État a investi. Mais prenez la somme des investissements privés, vous verrez que c'est énorme. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons prendre ce courage entre nos deux mains. D'une part, ouvrir le capital de ces entreprises et permettre qu'il y ait des capitaux frais apportés par les privés, de façon à voir ces entreprises-là redémarrer et être en mesure d'accomplir leurs objectifs. Ou d'autre part, on conclut des BOT avec les privés, donc construire, exploiter et transférer après à l'État, ce qui va permettre à l'État d'avoir, peut-être d'ici 10 ou 15 ans, d'avoir des entreprises qui vont rester sa propriété, mais qui fonctionnent dans le cadre de la modernité et conforme à l'évolution actuelle du monde. Si on ne fait pas ça, on continue à compter sur le budget de l'État, ces entreprises vont demeurer des canards boiteux comme on a toujours dit. On peut évoquer les problèmes de la gouvernance, mais c'est sûr les peu. Mais la réalité, la performance, on l'aura pas. Donc merci. Moi, c'est parmi les grandes recommandations que je préfère qu'on puisse les regarder en face.
Professeur Henri Limbaka, que pensez-vous des recommandations faites par l'EMSE Kiamonia?
Merci encore pour
essayez d'être concis, hein, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Merci. Je voulais d'abord rebondir sur monsieur Georges Kilangalanga qui a posé la question sur la relance des entreprises, en fait, qui a émis son idée sur la relance des entreprises. Je voudrais le rassurer d'abord qu'il devrait prendre l'entreprise comme un tout. Et c'est une entreprise publique qui appartient à l'État, normalement, dans un premier temps. Et considérer que lorsque nous faisons de l'économie politique, ça veut dire qu'il y a une certaine gestion de l'État dans la politique dans l'économie. Et gestion de l'État, gestion de la ville, gestion de la cité. Et cette gestion de la cité demande que tout le monde s'y mettent. Il y a plusieurs parties prenantes, dont la population. Et je dis un exemple. Lorsque un membre de la population jette des papiers par terre, est-ce que ça, c'est vraiment l'État? C'est la question. On dit il faut assainir les endroits où nous vivons. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui mettent des déchets, des saletés partout, devant même leur maison. Et là, ils demandent à l'État de venir balayer. C'est pas un problème. Mais au niveau des entreprises, lorsqu'on doit relancer les entreprises, cette question de dire dépolitiser, ce n'est pas mal. Mais l'État doit avoir un œil sur les entreprises. C'est la même chose que l'État a des yeux sur les entreprises privées. Mais seulement, il y a une problématique qu'on avait relevée, c'était celle de pouvoir escroquer les entreprises. En faisant quoi? Je prends les cas, ce qui était dit même aujourd'hui, le cas des jugements iniques, c'est-à-dire des jugements rendus contre les entreprises de manière frauduleuse, de manière aléatoire, par des juges, par des individus qui accusent les entreprises abusivement, et qui font aujourd'hui que les biens des entreprises sont spoliés, sont saisis par la justice, ainsi de suite. Mais lorsque l'on doit relancer une entreprise qui est dans cette situation, qui on nomme un DG ou un mandataire, qui commence déjà par chercher à régler cette question des saisines. Ah, il faut libérer d'abord les fonds, il faut faire ceci, il faut attaquer la spoliation. Mais qui sont auteurs de la spoliation? C'est nous-mêmes. Et il faudra qu'on arrive à un moment donné à comprendre que cette question d'entreprise nous regarde tous, parce que ce sont des entreprises publiques. Ça nous offre les emplois.
Mais professeur, on permet... va gagner en cours derrière le temps. Hein. Je voudrais juste avoir votre avis sur les propositions de l'IMS Kamonia par rapport à la relance effective des entreprises publiques de l'État.
J'étais en train d'y arriver. Les infrastructures qui doivent être mises en place appartiennent à l'État. Parlons des rails. Qui construisent les rails? C'est l'État. L'entreprise comme la SNCC exploite les rails mis en place par l'État. Ça veut dire l'État, pouvoir, met en place les infrastructures et les entreprises de l'État actionnaire utilisent et exploitent ce qui est mis en place par l'État pouvoir. Donc, faisons ces distinguos-là pour que l'on comprenne plus ou moins le rôle de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une entreprise commerciale qui doit faire concurrence avec les autres. Ça veut dire que son patron doit mettre en place des infrastructures, des moyens pour que cette entreprise évolue. Et lorsque son patron met en place des infrastructures et des moyens et met en place des cadres et des dirigeants qui vont gérer, ça doit être bien suivi et bien contrôlé, comme a dit mon prédécesseur.
Alors en conclusion, une phrase pour conclure. En conclusion.
Les états généraux se poursuivent. On va aller jusqu'à à la clôture samedi. Aujourd'hui, nous avons traité la question de gouvernance. Demain, nous allons traiter la question liée à la gestion. Après-demain, on traitera la question liée à la relance. Et donc, ceux qui pensent que la question de la relance est très importante, ils peuvent nous rejoindre parce que nous voulons mettre en place des bases pour relancer les entreprises, notamment les joint ventures, les partenariats publics et privés, et ainsi de suite.
Merci, professeur Henri Limbakra. Professeur Gary Sakata, vous, qu'est-ce que vous proposez pour favoriser la relance effective des entreprises publiques de l'État? S'il vous plaît, soyez concis, professeur.
Oui, je disais d'abord que, comme vous savez, le problème de gouvernance n'est pas spécifique à ce secteur. Hein. Donc, ils ne se trompent pas. Donc, ce ne sont pas ces États généraux qui vont arranger ces problèmes uniquement pour ça. C'est un peu un problème national. Alors, pour en revenir, je crois que presque tout a été dit, comme je l'avais dit au départ, l'outil de travail doit être renouvelé par le propriétaire de l'entreprise publique, donc de la société commerciale, quel État lui-même. Ça, je crois, on l'a dit. Et on doit former le gestionnaire au respect du bien commun, parce qu'il considère également actuellement les biens communs comme étant des res nullius, ce qui n'est pas normal. Et moi, je voudrais tirer expérience de ce que vous avez dit au départ du discours du ministre que j'ai pas suivi, des rivalités internes. Pour moi, il faudrait que l'on supprime le poste des directeurs généraux adjoints dans toutes nos entreprises publiques, y compris même dans les établissements publics, ce qui n'est pas le cas ici. Parce que nous avons des directeurs généraux adjoints qui n'ont pas de fonctions spécifiques et parfois des conséquences sont objets soit de convoitises, soit de comportements qui ne permettent pas un bon fonctionnement. Donc pour moi, au stade actuel, j'aimerais que ce poste-là soit supprimé ou au besoin, si on doit le garder, qu'on leur donne des portefeuilles spécifiques. C'est-à-dire le directeur général adjoint chargé de, je sais pas, des finances ou je sais pas, de l'administration, mais pas tout simplement est nommé DGA et on s'arrête là. Mais il va être chargé de quoi? C'est ça le début de
les conflits. Merci. Merci, professeur Gary Sakata. L'IMS Kamonia, en 30 secondes, votre mot de la fin.
Oui, bon, mot de la fin, c'est comme je venais de le dire. Donc aujourd'hui, il est possible de rendre performantes les entreprises publiques. Je suis aussi d'avis que l'État a toujours un rôle à jouer dans ces entreprises en tant que propriétaire pour notamment le développement de la partie fixe. Et aussi, il faut que l'État recourt à l'ouverture de capitaux, recourt au partenariat, recourt au financement innovant, recourt à la mise en place des redevances pour le développement des infrastructures, pour avoir les capitaux qui ne disposent pas aujourd'hui eu égard à la modicité de son budget. C'est Merci. La voie par excellence et l'État doit se renforcer plus dans son rôle régulateur de l'économie.
Merci Lamse Kamania, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui l'a réalisé, à Lengo et Debs Vitaïti, à la mise en onde derrière la caméra, Hervé Voka, présentation et coordination Kéline Kouté, Martin Sebujangui a supervisé ce programme. Restez branchés sur la fréquence de la paix.